et animé par les étudiants de l'Académie ESJ. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 mars, il est 7h et bienvenue dans la matinale de l'Académie ESJ. Je suis Emma Lacoste, votre présentatrice ce matin pendant une heure et laissez-moi vous souhaiter un bon début de journée. Bon, si vous écoutez Radio Campus, ça veut dire que vous êtes déjà sur la bonne voie pour un bon 21 mars. Aujourd'hui, le thème de la matinale n'est autre que la précarité menstruelle chez les étudiantes. On en parle beaucoup en ce moment, mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la précarité menstruelle, il faut peut-être une petite définition. La précarité menstruelle, c'est la difficulté financière pour les jeunes femmes de s'acheter des protections hygiéniques tous les mois. Pour parler de ce thème, on aura à 7h30 Sandrine Rousseau au téléphone, interrogée par M. Nathan Leclerc. L'enseignante chercheuse et vice-présidente de l'Université de Lille nous parlera notamment de la distribution gratuite de protections hygiéniques à, justement, l'Université de Lille. Mais avant ça, n'oublions pas les autres rendez-vous de cette heure ensemble, notamment le flash info de Laurine Doucy à 7h. Elle nous fera un petit tour d'actualité indispensable pour bien commencer la journée. La revue de presse de Célestine Gentilhomme à 7h10, qui nous parlera du nouveau début de crise à l'intérieur de l'État. Et sache qu'on a un peu hâte. Le micro-trottoir de Clara Carvévan, qui est partie à votre rencontre. Oui, elle a eu froid, mais le résultat en valait la peine. Rendez-vous à 7h20. À 7h40, la chronique internationale de Manon Krakowiak vous emmènera au bout de la Terre, au pays des merveilles. Monsieur Aznavour, on ne vous oublie toujours pas. Puis à 7h50, on finira avec Noémie Glore et les infos pratiques pour nous rapprocher encore plus de l'environnement et de sa protection. Petit hommage spécial à notre DJ privé Emma Bougerolles à la technique et Maud Koenigswald comme chef de l'ombre qui a conseillé l'émission. Mais ce n'est pas tout parce qu'on vous réserve quelques surprises dans cette matinale, vous le pensez bien, notamment un petit quiz pour nos chroniqueurs sur la précarité menstruelle et une bien belle chronique sur un anniversaire spécial aujourd'hui de la part de Célestine Gentilhomme. Allez, c'est parti, on se réveille ensemble sur Radio Campus 106.6.
Actu, musique, culture, bon plan. Réveillez-vous de bonne humeur sur Radio Campus.
Et on part sur les infos importantes du jour, c'est le flash info de Laurine Doucy. Nous sommes toutes oui, oui, ça rime. Voilà.
C'est le flash info, c'est le flash info.
C'est le flash info.
Ça tremble en Aquitaine. Il était presque 11h ce mercredi 20 mars quand le sol s'est mis à trembler en Charente-Maritime à la frontière avec la Gironde. Une vive secousse qui en a surpris plus d'un et qui se classe à 4,9 sur l'échelle de la magnitude de Richter. Une région qui, jusqu'hier, n'était pas connue pour ses risques sismiques. Mais selon Jérôme Verne, sismologue à l'École et Observatoire des Sciences de la Terre, pas de panique. Un sisme comme celui-ci se rapproche de la magnitude 5 en métropole, mais ne se produit que tous les 3 à 4 ans. Des militaires de l'opération Sentinelle mobilisés pour l'acte 19 des Gilets jaunes ce samedi 23 mars. À l'origine mobilisés dans le cadre des opérations antiterroristes, ce n'est pas la première fois que ces militaires sont mobilisés, mais en revanche, c'est la première fois que le gouvernement y intègre un tel effet de communication. But de l'opération, mesurer le risque de confrontation avec une foule revendicative, selon une source policière spécialisée dans la sécurisation des manifestations. Une utilisation de l'armée lors de manifestations qui n'est pas inédite, puisqu'en 1992, rappelons-le, Pierre Bérégovoy avait déjà fait appel aux militaires pour débloquer les routes, à l'époque bloquées par les camionneurs qui protestaient contre la mise en place du permis à points. De l'autre côté de la Manche, cette fois, Theresa May n'en a pas fini avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce mercredi 20 mars, elle a officiellement demandé un report du Brexit qui devait théoriquement avoir lieu dans 9 jours, c'est-à-dire le 29 mars prochain. Une demande de report qui survient après le second refus des parlementaires de l'accord pour une sortie du Royaume-Uni de l'UE. Si cette demande de report est acceptée par les 27 membres et par les 27 membres obligatoirement, cela laisse à mai jusqu'au 30 juin pour mettre en place un Brexit avec accord. Toujours en Europe, le Parti populaire européen a décidé hier de suspendre le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une suspension qui intervient après un début de campagne sur une ligne ultra-conservatrice du parti Fidesz qui avait accusé le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker de comploter dans le but de, je cite, attirer plus de migrants musulmans en Europe. Enfin, l'ONU publie ce mercredi 20 mars un rapport sur le bonheur dans le monde. Un classement qui recense les pays où on y est le plus heureux, mais aussi ceux où on y est le moins. Sans réelle surprise, c'est la Finlande qui figure en tête de ce classement, et ce pour la deuxième année consécutive. La France, quant à elle, perd une place par rapport à 2018 et occupe maintenant la 24e position.
Merci beaucoup Laurine, et c'est parti, on commence notre playlist du jour avec Run the World de Beyoncé. Et oui, désolé les garçons, mais la Queen, c'est les filles, avec la Queen pardon, c'est les filles qui mènent la danse. Bientôt 7h10 et c'est la revue de presse de la seule et unique Célestine Gentilhomme.
Entre tartines et chocolat, le journal vous est livré, c'est la revue de presse de Radio Campus.
Tous les matins, il achetait ce petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe.
Un très bel hymne, Maud. Du coup, Célestine, une revue de presse sous le signe du Renouveau, rue Lutèce à Paris.
Bonjour Emma, effectivement, tu as vu juste. Michel Delpech pour un flirt avec l'État, ose Libération. Après la casse sur les Champs-Élysées dans la journée de samedi, le Premier ministre Édouard Philippe est monté à la barre. Et c'est Michel Delpech, préfet de police, qui en paie les frais. Limogé notamment en raison de consignes inappropriées, il est mis en cause dans l'échec du maintien de l'ordre en marge de l'acte 18 de la mobilisation des Gilets jaunes. Un fusible idéal, titre Le Monde lundi soir. Même constat dans l'Obs, parlant d'une république des petits fusibles. Sur RTL, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, portait déjà la faute sur la chaîne de commandement. La première mission du préfet de police, c'est de protéger le pouvoir. Quand il ne remplit pas ce rôle, il est sur la sellette, évoque une source policière. Sans surprise donc. Libération rappelle que le préfet avait été lourdement fragilisé dans l'affaire Benalla, ce qui n'a pas fini d'éveiller les soupçons quant à une éviction programmée du côté de l'Élysée. Il avait été directement mis en cause par le Canard Enchaîné pour une lettre manuscrite, écrite en termes chaleureux et adressée à Alexandre Benalla, qu'il avait juré ne connaître que de loin, précise Nicolas Chapuis dans le journal Le Monde. Serge Raffi, dans l'Obs, évoque l'agacement provoqué par Michel Delpouech, dont le refus de porter le chapeau des dysfonctionnements de l'administration préfectorale lui vaudra le titre de maillon faible. Toutefois salué pour sa stratégie défensive à la jeunesse des mobilisations des Gilets jaunes, on lui reprochera très vite son manque d'offensive. Lui, qu'on décrit comme un homme qui n'a pas fort caractère, a également été lâché par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Un ministre pourtant dans la tourmente, auditionné aux côtés de Bruno Le Maire devant le Sénat, Christophe Castaner a des comptes à rendre. Alors que les accusations fustigent sur la gestion du ministre, il réplique que le problème a été un défaut d'exécution de ses ordres. En clair, la hiérarchie policière n'a pas obéi aux ordres du ministère de l'Intérieur. Pas de quoi convaincre l'opposition pour qui le ministre doit déposer sa démission. Si de nouveaux affrontements éclatent les prochains samedis, le ministre se sait désormais dans la ligne de mire. Plus troublant encore, le journal Le Monde révèle la volonté de reprise en main de la préfecture de police par l'exécutif. Un État dans l'État. Didier Lallement, le nouveau préfet de police, prend aujourd'hui ses fonctions. Il a donc reçu une lettre de mission avec deux priorités. D'une part, il devra mettre en œuvre la doctrine de fermeté renforcée de maintien de l'ordre, celle qui a causé la chute de son prédécesseur. D'autre part, il devra engager une vaste réforme de la préfecture de police. Parmi les enjeux de cette réforme, celui de retirer à la préfecture de police une partie de ses compétences spécifiques, qui jusque-là assuraient son indépendance du pouvoir politique. En bref, il s'agit là de lisser la chaîne de commandement, largement remise en cause. Un défi de taille pour Didier Lallement, qui était jusque-là préfet de la Nouvelle-Aquitaine, un homme de poigne, titre Le Figaro, quand le magazine La Croix s'essaie à un portrait robot. Rigoureux, connaisseur, expérimenté, mais aussi pas marrant, pas souriant, voire rigide. Alors on n'imagine déjà pas l'ambiance des dernières semaines dans les couloirs de la préfecture de police, mais alors là, beaucoup d'attentes donc autour du nouveau préfet de police. Premier test samedi, qui sera le prochain maillon faible ?
Merci beaucoup Célestine. Et tu vas continuer parce qu'en plus d'être l'anniversaire de mon papa aujourd'hui que j'embrasse, Célestine, tu voulais également nous parler d'un anniversaire très spécial de 2019.
Commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie.
Allô ? Non mais allô quoi ? T'es une fille, t'as pas de shampoing.
Commentaire ?
Si à 50 ans on n'a pas eu de Rolex.
Éloge ?
Elle est très distinguée.
Et coup de gueule ?
Quelle indignité.
Retrouvez le billet d'humeur sur Radio Campus Lille.
Emma, aujourd'hui, je n'ai pas la forme. J'ai décidé de pleurer et d'offrir mes quelques larmes en guise d'ultime oraison funèbre au dernier des géants. En bref, j'ai décidé de plomber l'ambiance.
Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne ?
Oui, pourquoi es-tu parti, Alain ? 10 ans déjà que la nuit d'Alain Bachong a cessé de mentir. C'était le 14 mars 2009, il s'était éteint à l'âge de 61 ans. Lui qui venait de recevoir plus tôt sa 11e victoire de la musique, un chapeau et des lunettes noires qui ne parvenaient à cacher un visage amaigri par le cancer. Cancer, saleté de cancer, lui qui a cru tuer l'homme, a rendu l'artiste immortel. Vous êtes irremplaçable, ce seront les derniers mots d'Alain Bachong sur scène. Le souffle coupé, la gorge irritée, comme un adieu prémonitoire à son public. De courtes semaines s'en suivirent et auront suffi.
Un jour, je parlerai moins.
merci la régie. De courtes semaines s'en suivirent et auront suffi à emporter l'homme en noir du rock français. Un cœur essoufflé par le tempo des batteries, sous perfusion musicale, et c'est le poumon noirci que M. Bachong s'est produit sur scène jusqu'au dernier éclat. Un clap de fin et des applaudissements qui n'ont su le retenir. Des applaudissements devenus sous peu ses ultimes camarades du Père Lachaise. Tant aimé, figure sur sa sépulture. Épitaphe d'une poésie épurée à laquelle seul le phrasé de Bachong donnait vie. Ode à l'érotisme, Alain Bachong déjouait la mort en chantant. Des mots bleus qui deviendront pétrole, le spleen bachongien taillé sur mesure, nous offre une discographie incontournable dont l'ombre de sa quintessence plane sur un paysage musical français en manque de référence.
Un jour je parlerai moi.
Un jour, je parlerai moins jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Et Alain Bachong s'est tu. Quand surgit enfin sa voix magnétique dans un album posthume qui brise une décennie de silence d'outre-tombe. La nuit, tu nous manques, mais nul doute que subsiste encore l'écho d'Alain Bachong dans cette dernière symphonie. En amont, paru le 23 novembre et composé de 11 chansons, enregistrées au cours des sessions préparatoires de Bleu Pétrole. Elles paraissent finalement 10 ans plus tard dans un album crépusculaire dont la sobriété consacre l'épopée sincère d'un homme malade. Il s'est poumonné sans broncher, conscient des ailes qui ne tarderaient à pousser. Des textes impénétrables auxquels l'incarnation d'Alain Bachong donne un semblant de confession. La voix, autrefois rêche, devient fragile et laisse transparaître une vulnérabilité insoupçonnée. Si dans « Osez Joséphine », plus rien ne s'oppose à la nuit, vous êtes, Monsieur Bachong, l'ultime rempart de mes songes. Je vous cite ici à juste titre, c'est la dernière étoile que je vois s'allumer, c'est le dernier soupir que je m'entends pousser. 3 millions d'albums vendus, Monsieur Bachong, 3 millions d'étoiles qui éclairent des nuits d'encre. Apporter une critique construite sur en amont serait pour moi une apostasie musicale, vous excuserez sans doute ma partialité. Vous êtes, Monsieur Bachong, le digne héritier du royaume de la musique. Résident de la République, vous êtes, Monsieur Bachong, résident de l'histoire.
Tu oses, vous osez, nous osons. Merci beaucoup Célestine pour ce très bel hommage. Et on repart sur Radio Campus avec Balance ton quoi d'Angèle qui casse les codes en dénonçant ouvertement la misogynie et le sexisme sur les ondes.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Pas les te faire en Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle. T'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en Où je serai poli pour la télé.
Radio Campus. C'était Angèle sur Radio Campus. Il est 7h20 et il est temps pour nous d'écouter le micro-trottoir de Clara Kervévan à la rencontre des Lillois.
Le micro.
C'est contre nature.
Hein. Eddie Mitchell, c'est une tapette, faudra y venir.
Le trottoir.
C'est la décadence. Hein.
Pas le temps de niaiser.
Le micro-trottoir.
Bonjour Radio Campus. Alors mardi, je me suis baladée dans le campus de Villeneuve-d'Ascq pour aller interroger les étudiantes et étudiants sur la précarité menstruelle. Je vous laisse d'ailleurs écouter Tiffaine vous expliquer ce qu'est la précarité menstruelle.
Selon moi, c'est le fait d'avoir des difficultés financières parce qu'on doit acheter des serviettes ou des tampons ou peu importe ce qu'on utilise et donc de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins qui sont nécessaires.
Alors, suite à ces difficultés, notamment chez les étudiantes, l'Université Lille avait mis en place une distribution de kits hygiéniques. Alors, est-ce que les étudiantes en ont bénéficié et qu'en pensent-elles ?
Alors oui, j'en ai bénéficié. La fac, elle a mis à disposition un paquet donc, de tampons et de serviettes. Et là, en ce moment, ils mettent aussi à disposition dans un bac. Et il y a vraiment des paquets de tampons et serviettes. On peut se servir gratuitement. Donc je trouve que c'est une très bonne idée.
Oui, j'en ai profité. Par contre, je trouve que la communication n'a pas été très bien faite parce qu'au final, on n'était pas au courant. On a été au courant à la MDE parce que quelqu'un est venu nous voir pour nous le dire. Mais sinon, on ne l'aurait pas su. J'en ai profité, bon après c'est moi c'est des produits que j'utilise plus spécialement, mais je les ai pris pour pouvoir après les donner à d'autres.
Des retours plutôt positifs concernant cette opération, mais aujourd'hui, quelles idées nos étudiants ont-ils pour lutter contre cette précarité ?
Je pense que déjà ils ont diminué la TVA de 20 à 5% sur ça. Le passer à zéro, ça peut être intéressant. Après, faire peut-être plus de collecte pour en donner dans les Restos du Cœur et tout ce qui est association caritative.
Ouais, que ce soit remboursé. Là, par exemple, on voit qu'il y a les préservatifs qui sont remboursés. Donc, pourquoi pas les protections. Et je pense que c'est une très bonne initiative qu'ils pourraient faire.
Il faudrait réduire la TVA sur les produits de nécessité, de première nécessité, et notamment concernant les menstruations, ouais, je pense. Enfin, en tout cas, ça pourrait être l'occasion de réduire les inégalités en ce sens-là et permettre un accès peut-être plus facile à un public étudiant qui, on le sait, a un pouvoir d'achat quand même en dessous de la moyenne de celui des Françaises déjà insérées dans la vie active.
Mais pour moi, ça serait intéressant que ça soit remboursé ou du moins en partie, parce que ça n'empêche que c'est un coût élevé. Enfin, moi, je suis passée à la CUP, donc forcément, les coûts sont plus faibles, parce que c'est quelque chose qu'on garde sur plusieurs années, mais ça n'empêche que s'acheter des serviettes hygiéniques, ça coûte vite 3-4 euros le paquet, et donc ça, c'est tous les mois, et en fonction des règles plus ou moins abondantes, ça reste un budget très élevé. Donc ça devrait être remboursé, du moins en partie.
Bref, vous l'aurez compris, il reste du chemin à parcourir pour lutter contre cette précarité menstruelle. Et ce n'est pas les idées qui manquent. D'ailleurs, il faut préciser que cette précarité ne touche pas que les étudiantes. Il y a aussi les sans-abri, les travailleuses précaires, mais aussi les femmes en prison, comme nous l'explique l'Obs dans un article paru cette semaine. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée Radio Campus.
Eh ben, merci Clara pour ce beau reportage. À 7h30, Nathan Leclerc aura normalement au téléphone Sandrine Rousseau. Merci à elle d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Mais avant ça, j'espère que les chroniqueurs sont prêts. C'est l'heure d'un petit jeu sur Radio Campus. Alors, je vais vous faire autour de la table trois propositions sur les initiatives prises par différents acteurs concernant la précarité menstruelle. Une seule proposition est fausse, votre rôle est de la démasquer. Est-ce que tout le monde a compris déjà ?
Oui.
Oui, j'attends des réponses. Hein.
Oui, c'est bon,
ok.
Au taquet.
Bon, c'est parti. Premier tour. Du coup, trois propositions. Première proposition. Il y a quelques semaines, une jeune étudiante en pleine période de règles s'est baladée dans Paris toute une journée sans protection hygiénique pour exiger leur remboursement. Deuxième proposition. Une femme aux États-Unis s'est récemment affichée avec le sang de ses menstruations sur le visage afin de faire acte de militantisme. Troisième proposition. Une femme à Marseille s'est baladée totalement nue dans la rue, couverte de sang, là encore pour forcer les hommes à regarder la réalité des menstruations en face afin d'espérer obtenir la gratuité des protections hygiéniques. On lève la main. Oh là là. Je suis désolée Célestine, gentilhomme, vous avez été la première.
Et oui, et je pense que c'est la dernière qui est fausse.
Alors, est-ce que tout le monde est d'accord ?
Ouais. La première vraie sur après. Ouais.
Moi, j'avais pas compris le jeu en fait. Okay,
mais... D'accord. Bah, alors, j'ai demandé quand même pendant la question.
Non, mais deux bonnes, une fausse, c'est ça.
C'est ça, exactement.
Pas une vraie, deux fausses.
Non. Donc, du coup, on est bon. Tu as compris maintenant.
C'est bon.
Parfait. Donc, la première, c'était la jeune étudiante en pleine période de règles qui s'est baladée dans Paris toute une journée sans protection hygiénique. Ça, c'est vrai. C'est le 1er février. Irène, 20 ans, a décidé de laisser visible le sang que beaucoup d'hommes préfèrent ne jamais regarder. Elle a ainsi fait couler son sang afin de montrer. Je la cite, hein. Ce qu'il se passerait si les personnes menstruées décidaient de ne plus payer leur protection hygiénique. Deuxième proposition, la femme aux États-Unis qui s'est récemment affichée avec le sang de ses menstruations sur le visage. C'est une coach de sexe américaine qui tentait ainsi de briser le tabou des règles qui seraient nécessairement honteuses, sales et qu'il faudrait cacher de la vue de ces pauvres hommes. Est-ce qu'on est bon ?
On est bon.
Oui. On est bon, ok. C'est parti pour le deuxième tour. Encore trois propositions. Première, il y a quelques mois, une jeune femme a lancé une pétition en ligne pour que les protections périodiques soient remboursées à 100% par la Sécurité sociale. Elle exige également la mise à disposition gratuite de serviettes hygiéniques dans les toilettes publiques. Deuxième proposition, un organisme féministe a récemment demandé l'établissement d'une subvention annuelle allouée à chaque femme afin de rembourser une partie des dépenses liées aux règles. Troisième proposition, le média Les Glorieuses a récemment lancé une pétition pour garantir un accès gratuit à des protections hygiéniques et bio dans tous les collèges et lycées de France. Oh, c'est parti très vite, Noémie.
Je pense que la deuxième est fausse.
Tu penses que la deuxième est fausse, c'est-à-dire que l'organisme féministe n'a pas récemment demandé l'établissement d'une subvention annuelle allouée à chaque femme.
Je pense qu'avec la voix que t'emploies, je me suis trompée.
Ah, mince, je donne des indices en plus. Donc, alors... est-ce que je répète ?
La première.
Oui, la première, c'est « Il y a quelques mois, une jeune femme a lancé une pétition en ligne pour que les protections périodiques soient remboursées à 100% par la Sécurité sociale. »
Oh, c'est peut-être celle-là qui est fausse.
Oh, peut-être. Alors, l'équipe 2, là, Laurine, Manon.
Bah, la première, elle est assez probable.
J'hésite entre la première et la troisième. J'enlèverai le bio, en fait, je sais pas.
D'accord. On est parti sur les réponses, hein, je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. Donc, la première était vraie, c'est-à-dire que c'est une pétition qui s'intitule « Paix tes règles », entre guillemets, et pousse l'ensemble de la population à réfléchir sur la relativité de ce qui est accepté. En effet, comme elle le dit si bien, si du jour au lendemain, il n'y avait plus de papier toilette dans les toilettes publiques, tout le monde serait scandalisé. Il faut donc appliquer le même type de raisonnement pour les règles. La troisième, qui était le média des Glorieuses, qui a lancé une pétition pour garantir un accès gratuit à des protections hygiéniques et bio dans tous les collèges et lycées de France. Laurine, c'est vrai aussi. Après un sondage réalisé par leurs soins révélant que 87% des 12-19 ans estiment que les protections périodiques sont trop chères, les Glorieuses ont décidé d'agir en adressant une pétition à Jean-Michel Blanquet, ministre de l'Éducation nationale. Et donc le deuxième, l'organisme féministe qui a récemment demandé l'établissement d'une subvention annuelle. C'est faux.
Donc j'avais raison.
Bien joué, Noémie. Troisième tour et dernier. Je suis désolée, je sais que ce jeu est vraiment très intéressant. Donc du coup, on a trois propositions encore. Première proposition. Dans trois facultés test de France métropolitaine, des distributeurs de protection hygiénique ont été mis en place. Une mesure qui pourrait se pérenniser et se développer à l'échelle nationale si les tests s'avèrent concluants. Deuxième proposition. L'ESJ Lille. Bonjour l'ESJ Lille. Comme quelques autres écoles, ont décidé de mettre à disposition de leurs élèves des protections hygiéniques gratuites dans leurs locaux. Bon, c'est un peu biaisé. On en parlera après. Et il y a quelques semaines, l'Université de Lille a distribué des kits de protection hygiénique dans l'ensemble de ses campus. Laquelle est vraie, laquelle est fausse ? Je suis désolée, c'est Laurine qui a été en première.
Ah, la première.
La première est fausse ?
Ouais.
C'est-à-dire la première ?
Bah, la première,
pour voir si t'avais suivi, hein, mais ok. Donc c'est dans trois facultés test de France métropolitaine, des distributeurs de protection hygiénique ont été mis en place. C'est faux.
C'est faux ou c'est
vrai ? C'est faux, c'est faux, c'est vrai. Non, c'est une question.
C'est une question.
Hein.
Ah, c'est
faux peut-être pas. Parce qu'on a reçu un mail nous indiquant qu'il y avait des protections mises en place à l'ESJ.
C'est pour ça que je disais que c'était biaisé. C'est parce que nous sommes dans l'école, donc nous avons vu la distribution gratuite de protection hygiénique. Très bien, donc bon. Je ne vais pas repartir sur l'ESJ, on le sait tous. La troisième, c'est qu'il y a quelques semaines, l'Université Lille a distribué des kits de protection hygiénique dans l'ensemble de ses campus. Ce qui va nous faire une parfaite transition avec l'invité de Nathan qui sera tout de suite après. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Merci, vous avez bien joué, vous avez donné du cœur à l'ouvrage et je suis fière de vous, vraiment.
Qui a gagné ? On ne sait pas.
Bah, je pense que c'est nous.
Je pense que c'est l'équipe 1. Hein. Franchement, Noémie et Célestine ont été beaucoup plus vives que vous. Okay, je suis désolée.
C'est pas grave, mais sans aucune.
Allez, donc, il est 7h30. Nathan, t'es prêt ?
Tout à fait, je suis prêt.
Ok, c'est parfait. Donc du coup, c'est parti pour l'invité de Nathan Leclerc, Sandrine Rousseau.
Il est 7h30, votre invité sur Radio Campus.
Et je reçois aujourd'hui effectivement Madame Sandrine Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes maîtresse de conférences en sciences économiques, vice-présidente de l'Université Lille en charge de la vie étudiante et de l'égalité entre les femmes et les hommes. On a souhaité vous interroger ce matin à propos de l'initiative que vous avez portée au début de l'année. Mais pour commencer, de manière un peu plus générale, est-ce que vous pouvez nous détailler votre fonction au quotidien ?
Ma fonction au quotidien, ce que je fais à l'université ?
Tout à fait.
Eh bien, je suis en charge de la vie étudiante, donc ça veut dire tout ce qui est soutien aux associations, soutien aux projets étudiants, la vie étudiante d'une manière générale sur les campus, l'animation, la vie culturelle liée aux étudiants, les questions de solidarité aussi en partie, et puis j'ai en charge l'égalité femmes-hommes, donc ça recoupe beaucoup de choses. Par exemple, on a joué il y a 2 semaines maintenant les monologues du vagin avec 60 étudiantes et personnels. On fait des actions, on forme les associations aussi contre les luttes, contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, enfin, il y a énormément de missions en fait. Hein. Et puis j'ai tout le développement durable, donc j'ai toute la question environnementale aussi.
Alors au cours du mois de janvier, l'Université de Lille a donc distribué 30 000 kits d'hygiène féminine à ses étudiantes, gratuitement. Sur Twitter, vous expliquiez qu'il est préférable d'acheter des livres quand on est étudiante que des serviettes ou des tampons. Est-ce que les règles aujourd'hui, les protections hygiéniques, représentent un coût important pour les étudiantes ?
Oui, alors après, les études varient, mais il y a quand même un consensus pour dire que ça coûte sur une année entre 300 et 600 euros. Si on compte l'ensemble de ce qu'il faut pour les règles, c'est-à-dire à la fois des protections périodiques, mais aussi des changements de sous-vêtements quand ceux-là sont tachés, et puis des doliprane, enfin des médicaments aussi pour accompagner les règles douloureuses. Donc si on prend tout ce budget-là en compte, ça représente 300 et 600 euros par an, ce qui est absolument énorme dans un budget étudiant.
Quels ont été les retours par rapport à cette opération ? Est-ce qu'elle a été un succès ?
Alors, elle a été un très grand succès des étudiantes et des étudiants, et c'est la première fois qu'il y a une adhésion aussi forte des étudiants aussi, donc je salue ça parce que je pense que c'est une évolution. Les étudiantes étaient très heureuses de cette opération, elles se sont saisies des paquets qui étaient à disposition. Après, ça n'a pas enthousiasmé tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a évidemment eu quelques critiques. Une des critiques les plus récurrentes que j'ai eues, c'était la question écologique, c'est-à-dire ça fait quand même des déchets tout ça, 30 000 packs, c'est énorme. Et c'est pour ça que l'année prochaine, on travaillera pour davantage de solutions lavables, coton biologique ou cups.
Voilà, donc
même
vous
si
le dites.
Cette année, il y en avait déjà, des cups.
Donc ça veut dire que cette opération a vocation à être renouvelée ?
À chaque année, oui, bien sûr.
Et alors, la distribution a été entièrement financée par l'université pour un coût d'environ 59 000 euros. Est-ce que c'est économiquement viable pour l'université ou alors vous avez besoin de soutien financier pour pérenniser justement cette opération ?
Alors, les besoins financiers, enfin, les soutiens financiers sont évidemment les bienvenus. On est en recherche de partenariats, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous mettre en contact. Après, l'université, quoi qu'il se passe, prendra quand même en charge l'opération. Parce qu'on estime que c'est une question importante, en fait, cette question d'avoir de quoi être propre, digne, de ne pas avoir cette question toute la journée, à savoir est-ce que je vais tenir, est-ce que ça ne va pas déborder, est-ce que je ne vais pas tâcher la chaise ou... Bon, toutes ces questions-là sont des questions qui, évidemment, empêchent de faire ses études correctement. Hein. Cette journée-là, on est moins concentré sur le cours de maths, donc c'est une question importante.
Les règles, c'est encore un sujet tabou en France. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la mise en place de cette opération ?
Alors, des difficultés dans la mise en place, non. Par contre, c'est marrant parce que les critiques sont venues plutôt après sur le fait que est-ce bien le rôle de l'université ? Est-on bien dans notre rôle quand on fait ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas des sujets plus importants ? Mais en fait, ces critiques, elles ont quand même été globalement très minimes. Par rapport à l'enthousiasme que ça a suscité. Je pense quand même qu'on est la première université en Europe, c'est sûr, et peut-être même une des premières universités au monde à le faire. Donc, on innove. Et en plus, quand vous me posez la question de savoir si les règles sont tabous, on a volontairement distribué ces paquets dans les halls des universités, dans les halls des facultés plutôt, parce qu'on voulait que ça soit à la vue et au su de tous, et qu'il y ait justement un travail aussi sur le fait que c'est pas en catimini, c'est pas au quatrième sous-sol, c'est voilà, on est fiers d'être des femmes, et donc être une femme, ça veut dire avoir ses règles, et puis il n'y a pas de raison d'avoir honte d'avoir des règles.
Alors, vous parliez de l'enthousiasme suscité par cette opération. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut inspirer d'autres universités, aussi en France ou ailleurs? Est-ce que ce dispositif peut être imité?
Alors, j'ai eu beaucoup de demandes d'autres universités pour les mettre en place. Donc, je pense que oui, ça va se mettre en place dans plusieurs autres. J'ai aussi eu des demandes de la part, par exemple, de restaurants de Lille, qui veulent mettre des distributeurs de serviettes dans leurs toilettes femmes. Et je trouve que c'est vraiment super parce qu'en fait, l'idée, pardon, à terme, c'est que dans chaque toilette utilisée par le public, il faut qu'il y ait quelques paquets, enfin quelques serviettes qui soient là en cas d'urgence, en cas de dépannage.
Je vous en prie. Alors, dernière question. Aujourd'hui, les mutuelles étudiantes remboursent au moins en partie les protections hygiéniques. Est-ce que là encore, c'est une action positive selon vous?
Oui, bien sûr, bien sûr. Tout ce qui va dans le sens d'une prise en charge de ce budget va dans le bon sens. Parce que c'est un budget qui est déjà conséquent, on en a parlé, mais c'est aussi un budget qui n'est pas du tout pris en compte. Par exemple, les bourses CROUS sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Or, si on estime qu'il y a 600 euros de plus de charges par an, quelque part, on pourrait imaginer qu'il y a aussi un petit supplément pour les femmes dans les bourses CROUS, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, il y a vraiment quelque chose à travailler de l'ordre d'un accès gratuit à ces protections. Et alors, moi, je dis toujours, je vois bien que mon argument porte pas toujours, mais le papier toilette, on le met à disposition parce qu'on estime que c'est urgent quand vous êtes aux toilettes, vous avez besoin de papier toilette. C'est un budget pour l'université de mettre du papier toilette dans toutes les toilettes de l'université. Mais quand vous prenez un rouleau de papier toilette, personne ne vous demande quel est votre revenu. Parce qu'on estime qu'au moment où vous êtes dans les toilettes, ben juste vous avez besoin de papier toilette. Et bien, c'est exactement la même chose pour les protections hygiéniques. La question, c'est vraiment comment on fait en sorte que, comme c'est un bien de première nécessité, mais vraiment absolu, d'urgence, eh bien, on doit en avoir aux endroits où il faut. Oui.
Merci beaucoup, Madame Sandrine Rousseau, d'avoir accepté de répondre à nos quelques questions. Je rappelle que vous êtes notamment donc vice-présidente de l'Université de Lille en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup tous les deux pour cet échange. Et donc, on va repartir sur une musique, un très bon choix de Emma Bougerolles, avec Pisser debout, la chanson humoristique de Guédrier, j'espère que je le prononce bien, qui décrit avec malice tout ce qui aurait pu lui être arrivé si elle avait eu quelque chose entre les jambes.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, ouh, ouh, pisser debout, ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. pisser debout. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo. Entre deux voitures, je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginales.
La poésie, toujours, sur Radio Campus. Il est 7h40. Manon Krakowiak, j'espère que tu es prête. Voici la chronique internationale.
Emmenez-moi au bout de la terre.
Tout de suite, la chronique internationale sur Radio Campus.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Alors, Manon, tu vas nous faire un petit tour du monde des règles.
Bonjour Emma, alors en effet, je vais vous parler de coutumes plus ou moins joyeuses liées aux menstruations dans le monde. Certaines familles, en Grèce ou en Afrique du Sud par exemple, organisent une fête pour célébrer l'arrivée des premières règles d'une jeune fille. De l'autre côté du globe, les mères japonaises préparent à cette occasion du seikan, un plat composé de riz gluant et d'haricots azuki. Ici, en France, l'idée est assez répandue qu'il ne faudrait pas faire de mayonnaise lorsque l'on a ses règles ou elle risquerait de tourner, de même que la crème fouettée en Argentine. Quand bien même ces superstitions véhiculent l'idée assez patriarcale selon laquelle la place d'une femme serait dans la cuisine, elles peuvent nous faire sourire tout en témoignant bien du tabou que constituent les menstruations dans nos sociétés. En effet, avez-vous déjà vu dans les publicités pour protection hygiénique une représentation réaliste du sang? Ou est-ce que, comme moi, vous avez été habitué à y voir un liquide bleu qui pourrait laisser penser que les femmes viennent d'une autre planète? Après tout, comme l'a écrit Jean Grey et comme l'a prouvé Bridget Jones, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mais plus sérieusement, combien d'expressions connaissez-vous pour éviter d'employer les mots « règles » ou « menstruation » ? Entre Gemeraniania, avoir ses ours ou encore les Anglais ont débarqué, le tabou des règles est comme cette chronique, internationale. Cependant, ces tabous sont parfois bien plus importants qu'en France. Au Malawi, par exemple, les parents ne parlent jamais des règles avec leurs filles. Celles-ci doivent se tourner vers leur tante pour avoir quelques explications sur le sujet. Ce tabou explique que les jeunes filles ayant leurs règles sont souvent moquées par leurs camarades d'école en Afrique, ce à quoi s'ajoutent les faibles moyens de ces établissements. Le manque d'hygiène, voire l'absence de sanitaire, explique ainsi que dans des pays comme le Kenya ou le Bénin, 10% des jeunes filles n'aillent pas à l'école une semaine par mois. Pour rester au Bénin, les filles et femmes ayant leurs règles ont interdiction de s'approcher des lieux sacrés traditionnels. Si les règles sont taboues, c'est en effet parce qu'elles sont souvent considérées comme impures par les religions. On peut penser à la religion musulmane qui empêche notamment aux femmes de faire leurs 5 prières quotidiennes ou de jeûner pendant le ramadan lorsqu'elles ont leurs règles, mais le judaïsme et le christianisme ne sont pas en reste non plus. En effet, dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le Lévitique, il est écrit que les femmes ayant leurs règles doivent rester 7 jours dans leur isolement et que quiconque les toucherait serait souillé. En Inde, les hommes, que ce soit les pères, les frères ou les maris, évitent d'aborder le sujet, jouant les ignorants. Ce tabou, de nouveau combiné aux faibles ressources des populations, explique que les femmes y soient en constante précarité menstruelle. En effet, seuls 12% des Indiennes ont accès aux protections hygiéniques. La plupart du temps, elles utilisent des morceaux de tissu comme protection, mais ceux-ci sont inefficaces et peuvent occasionner des allergies et infections. À ce propos, je ne saurais que vous recommander le documentaire « Les règles de notre liberté » disponible sur Netflix, qui montre dans le village de Katiera l'installation d'une machine pour que les femmes puissent fabriquer elles-mêmes leurs serviettes hygiéniques. Si en Inde, des initiatives sont prises pour permettre d'alléger le poids des menstruations pour les femmes, ce n'est pas vraiment le cas au Népal, où le tabou est poussé à l'extrême et met en danger les femmes. En effet, il y est pratiqué une tradition hindoue nommée « Chapodi ». Il s'agit là d'un véritable exil menstruel puisque les femmes sont obligées de quitter leur domicile pendant leurs règles pour s'installer dans une hutte où les conditions d'hygiène sont plus que rudimentaires et autour desquelles les animaux sauvages errent. En août 2017, le Parlement népalais a approuvé une loi sanctionnant cette tradition d'une amende de 3000 roupies, soit 26 euros, et d'une peine de prison de 3 mois, mais le chapodi reste largement pratiqué dans le pays. En définitive, les tabous liés aux règles sont tenaces dans le monde et bien plus que des changements politiques, ce sont des changements de mentalité qu'il faut.
Merci beaucoup Manon pour toutes ces précisions. Et tout de suite on repart sur de la musique avec Georgia Smith, Beautiful Little Fools. Non, les femmes ne sont pas uniquement destinées à être jolies. Voici 3 minutes de pure douceur pour finir de vous en convaincre si nécessaire.
Beautiful little fools, that's why.
those girls are destined for. Beautiful little fools, born to be in thought. Where is the feminine race? Where are these so-called independent women who pick up their flaws and let the world in? Where are these girls? Beautiful little fools, that's what us girls are destined for. Something that is not their reflection, becoming a beautiful little Hollywood perception. Beautiful little fools, that's what us girls are destined for. Beautiful little fools, born to be in love. Didn't your mother ever
avez loupé la première partie de l'émission, rendez-vous dans les podcasts de l'Académie EAJ sur campuslille.com. Et donc, Laurine, tu es là.
Oui,
tu es là, super.
Je suis là.
Alors, c'est parti, on va faire un petit rappel des titres principaux.
Donc si vous nous rejoignez maintenant, pas de panique, on vous rappelle les titres de ce jeudi 21 mars 2019. Un milieu de semaine marqué par le séisme en Aquitaine avec une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter. Première fois que la Terre tremble dans cette région. Un acte 19 des Gilets jaunes qui sera encadré par des militaires de l'opération Sentinelle. C'est ce qu'il devrait se passer ce samedi 23 mars dans toute la France. Ces militaires sont déployés dans le but de contenir des manifestants parfois violents, comme l'ont montré les derniers épisodes. Et enfin, Theresa May qui reporte le Brexit au 30 juin, c'est en tout cas la demande qu'elle a faite hier aux 27 pays membres de l'Union européenne. Sans accord, la première ministre a été contrainte de repousser l'échéance prévue à l'origine le 29 mars prochain, dans 8 jours et pas dans 9, comme je l'ai dit tout à l'heure. Désolé Radio Campus, ça fait exactement 1 an, 8 mois et 21 jours que je n'ai pas fait de maths.
Merci Laurine, faudrait s'y remettre. Et on repart sur de la musique sur Radio Campus. Alors, on a choisi maintenant... Bah, c'est You Don't Own Me, non ? Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein ? Allez, Leslie Gore, c'est parti.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other. Stay. I don't
Avant de clôturer cette belle heure ensemble, il était impensable pour nous, jeunes étudiants, de ne pas vous parler protection de l'environnement. Noémie Glore et ses infos pratiques, c'est tout de suite.
Météo, sortie, bon plan, circulation, c'est l'heure des infos pratiques.
Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. C'est le cri que vous allez entendre, lire et je l'espère scander partout. Si les politiques attendent on ne sait quoi, la planète, elle, n'attend pas. On était plus de 350 000 à marcher pour le climat samedi 16 mars en France. Et depuis hier, eh bien, c'est le printemps. Donc plus d'excuses pour ne pas marcher pour le climat, surtout qu'avec les 2 degrés en plus, vous ne risquez pas d'attraper froid. Au lieu de se taper les bouchons sur l'A25 avec un ralenti vers l'ouest et sur la D941 où la circulation est interdite, prenez les transports, enfourchez votre vélo casqué ou favorisez le covoit avec vos collègues, famille ou amis. Ce matin, il fait 4 degrés, soit 2 degrés en dessous des moyennes de saison et la température va monter jusqu'à 15 degrés. C'est kiffant, certes. Mais c'est comme manger du poulpe, ça fait kiffer, mais c'est chelou. Bientôt, à Lille, un vide dressing au profit de l'association Cœur Bleu, l'autisme en progrès. De la seconde main donc, il existe plusieurs applications et sites vendant des vêtements déjà portés. Vous pouvez également visiter la citadelle et en profiter pour faire des câlins aux arbres, c'est très ressourçant. Et depuis vendredi dernier, les grèves pour le climat ont officiellement démarré. Elles ont lieu chaque vendredi. Et sachez qu'il n'y a pas d'âge pour marcher pour la planète, d'autant plus que ce sont des marches bon enfant. Petit rappel, il est inutile de monter sur les toits des immeubles lors des marches. Ce serait trop bête de mourir accidentellement pour protéger la Terre. Quelques gestes préservant notre planète. Le cure-oreille. Certes, le nom n'est pas sexy, mais évite d'acheter des cotons-tiges et donc une consommation moins accrue de plastique et de coton, disponible en pharmacie et dans les boutiques bio. Vous pouvez également acheter ou fabriquer des lingettes réutilisables et lavables pour vous nettoyer ou vous démaquiller le visage. Pour les filles, vous pouvez passer à la cup pour vos menstruations, une petite coupe qui recueille le sang. Sans rentrer dans les détails de la notice d'utilisation, la cup dure 5 ans. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres lessives. Voici les conseils de Madame Michu.
Donc voici une recette toute simple pour faire votre lessive vous-même. C'est une recette qui est impeccable pour la machine à laver parce qu'elle ne l'encrasse pas. C'est très bien aussi pour votre porte-monnaie parce que c'est économique et c'est bien pour l'environnement parce qu'il n'y a pas de produits chimiques que l'environnement ne peut pas éliminer. Donc, il vous faut un ancien récipient à lessive, un verre de savon noir que vous allez diluer avec un verre d'eau très chaude. Une fois que c'est bien dilué, vous ajoutez un quart de verre de bicarbonate de soude, un quart de verre de cristaux de soude, mélangez bien. Ensuite, vous ajoutez un demi-verre de vinaigre blanc. Vous agitez encore bien, attention ça mousse beaucoup. Ensuite, vous complétez le mélange avec les deux autres verres d'eau chaude. Puis, pour que votre linge sente bon, vous ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle, une odeur que vous aimez. Et c'est tout simple, voilà.
Merci Tata Gladys, toutes ces propositions sont économiques et vous pouvez les retrouver sur le site web EcoGeste. Certains arrêtent même de prendre l'avion et favorisent les autres moyens de transport. Il faut, il est vrai, ne pas être trop pressé. Vive la Terre, vive les animaux.
Merci beaucoup Noémie. Bon, c'est sur un ton grave et triste que je me dois de vous annoncer la fin de cette matinale. Je tiens donc à remercier l'ensemble de l'équipe pour le travail, le cœur et le temps qu'ils ont mis pour préparer cette émission. Petit hommage à Maud Koenigswald qui a travaillé dans l'ombre pour une matinale réussie, Emma Bougerol qui de ses doigts a permis à nos voix de vous atteindre. Et je finirai simplement par rappeler que la gratuité des protections hygiéniques sont effectives, notamment en Écosse. Alors non, ce n'est pas une lubie, mais un vrai besoin pour des milliers de femmes. Alors comme dirait Louise Michel, simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. J'aimerais rajouter par contre qu'elle voudrait réellement être écoutée. On finit cette matinale. Merci aux auditeurs d'être là. Merci aux chroniqueurs d'être là aussi, aussitôt le matin. Et tout de suite, la deuxième heure de la matinale de l'Académie ESJ, avec à l'animation la seule et unique Camille Gaborio.